Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Ce soir, je me trouve au café du Pestel, qui clôture ses 4 années associatives de tenue de bar et d'organisation de soirées dans Semaine Cinéma. Et ce soir, je voulais vous présenter un septet venu tout droit de Montpellier qui s'appelle Etioda, et je suis donc avec
Eric,
Daniel
et Roro.
Enchanté de vous rencontrer. Il y avait un M silencieux qui s'est décalé du coup.
Et Baptiste.
Enchanté. Moi, je suis assez heureux de vous rencontrer parce que je vous ai découvert il y a 2 ans sur votre album, comment déjà,
Team 4,
exactement. Moi, je vous ai découvert parce que vous avez fait un featuring sur cet album avec Max Singe. Et moi, il se trouve que j'anime une émission hip-hop sur cette radio, Radio Tiwa. Et donc voilà, et d'ailleurs cette émission s'appelle Hip Hop à queue, ce qui nous permet aussi d'aller sur d'autres terrains musicaux quoi. Est-ce que vous pouvez me parler de cet album? Est-ce que c'était un souhait à vous d'ailleurs de faire un album justement sorti de vos albums instrumentaux, de faire intervenir un MC ou un chanteur, on peut appeler ça comme on veut maintenant?
Du coup, l'idée elle est venue d'une rencontre avec Max Singe sur l'album précédent. On invitait des gens à venir en guest, quoi. Et on a rencontré Max Singe. Et c'était une tellement belle rencontre que je pense que la petite graine était plantée à partir de là. Et puis l'idée, elle a mûri jusqu'à... Je crois que c'est Romain qui avait parlé de Max Singe. Hein. Une époque, tu disais, ça serait bien de faire un truc avec Max.
Toi.
Ouais.
Bon, on a eu le coup de cœur, quoi. Ouais. On a kiffé
le coup de cœur pour Maxou et du coup
on a kiffé le Maxou.
Est-ce que c'est vous qui l'avez amené vers vous ou est-ce qu'il y a eu comme cette rencontre musicale et vous vous êtes dit en produisant par exemple ce morceau sur votre avant-dernier album, vous vous êtes dit tiens si on faisait un truc ou c'est après maturation se dire bon on a réécouté, c'est cool, ça vient de vous ou de lui?
Je crois que ça vient de nous, mais en fait on avait envie de faire un truc mais on savait pas trop quoi. On avait envie de bosser avec lui parce que c'est une chouette personne et qu'il a des super textes et aussi il est très musicien, c'est-à-dire qu'il comprend les codes musicaux qu'on utilise. Donc il était vraiment comme un musicien en fait. En plus d'être un chanteur, rappeur, il comprenait notre langage de musicien. Donc ça c'était vraiment un truc super intéressant de bosser avec lui. Et après on savait pas trop sur quel thème approfondir la collaboration. Et voilà, c'est là que on a eu. Moi je suis parti en Éthiopie entre temps. Et en revenant d'Éthiopie, je me suis dit, tiens, pourquoi pas raconter un peu l'histoire d'un voyageur qui part en Éthiopie au travers de textes un peu poétiques, comiques, un peu humoristiques aussi, ironiques, de l'occidental qui découvre un peu un territoire inconnu avec des claques qui se prennent dans la figure un peu tous les jours. Voilà, donc ça c'était les grandes lignes. Et Max a ensuite écrit des textes sur ça, quoi. Voilà.
Et du coup, pour toi, c'était ton premier voyage en Éthiopie. D'ailleurs, Etioda, est-ce que ça vient du moins de ce nom, Éthiopie?
Complètement, oui. C'est ça. Et oui, ça vient de là. Et au début, c'était un hommage au jazz éthiopien qu'on avait monté un peu comme ça pour un concert éphémère. Et puis, c'est resté vu l'engouement un peu qu'on avait avec le public aussi, avec quelque chose qui se passait bien, quoi. On s'est dit qu'il fallait que ça continue, et c'est parti de là, en fait.
C'est trop cool, hein. En tout cas, votre musique, elle est bien, et justement, elle reflète vachement ce courant musical de jazz éthiopien, de mulatou, moi j'ai toujours du mal à prononcer le...
Astatke,
exactement. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment penser à lui. Est-ce que tu as d'autres influences de jazz éthiopien, avec des noms peut-être moins connus que toi t'as découvert là-bas?
Oui, alors après, bon, moi, je peux continuer à parler, mais...
Mais c'est pas grave, il faut toujours un leader. Et...
Bah, dans le groupe, c'est vrai qu'il y a des gens qui peut-être écoutent plus cette musique que d'autres. Moi, je l'écoutais pas forcément beaucoup au départ. J'ai découvert Mulatu Astatke, ensuite il y a eu Mahmoud Ahmed, qui est un chanteur très connu aussi. Geta Chomekoria, qui est un saxophoniste aussi super, qui a fait des projets avec par exemple The X, un groupe de punk.
Ouais, je vois bien.
Voilà, donc ça c'est vraiment des musiciens qui sont ouverts aussi au métissage et tout, à la rencontre musicale. Et Et puis en allant en Éthiopie, en effet, j'ai rencontré plein de musiciens. Ça serait un peu long de tous les citer, mais après, c'est vraiment rapidement, on est venu à faire des compositions, quoi. On a essayé aussi d'amener notre influence, nos influences musicales. Par exemple, Romain, bon, bah, je sais pas, il pourrait parler aussi de ses groupes, mais il est quand même pas mal influencé par le rock, la pop, la musique électro aussi, et puis le jazz, parce qu'on vient un peu tous aussi de projets où il y a du jazz. Voilà, Eric qui fait beaucoup aussi avec les musiques africaines, aux percussions, Fanga qui est un super groupe d'afrobeat de Montpellier, et voilà, Baptiste aussi qui a plein de casquettes, funk.
Ben ouais. Mais c'est cool parce que ça se ressent d'ailleurs dans cette musique, vos influences. Moi, en fait, aussi, moi, j'ai découvert le jazz par rapport au hip-hop, en fait, avec toute cette culture du sample. Et ça m'a fait découvrir, d'ailleurs, le hip-hop m'a fait découvrir un pan incroyable de musique, parce que quand, moi, maintenant, parce qu'on est sur un accès assez numérique et avec des machines et tout ça, mais à l'époque, c'était du sample de vinyle ou des boucles de vinyle, et du coup, moi, ça m'a vachement intéressé. C'est ça qui m'a amené aussi, aussi au jazz, et du coup, je trouve que votre musique, elle a ce côté jazz éthiopien, mais on sent aussi un peu vos influences à tous, quoi. Et c'est hyper intéressant, parce que c'est aussi hyper intéressant ce que tu disais avec ces Éthiopiens qui font des combos avec des mecs qui font du punk, tu vois. Moi, je pense aussi à Fela, qui a fait beaucoup de choses avec des musiciens anglais, tout ce qui a été mixé avec la culture africaine et la culture occidentale, ou bien Damon Albarn qui a eu des projets avec des musiciens africains où il est parti enregistrer
avec le batteur d'Afrobeat,
avec Tony Allen. Exactement. Complètement, quoi. Et du coup, c'est aussi intéressant finalement que toi tu sois allé là-bas, te mélanger. Bon, même si c'est un peu ta musique de prédilection, mais c'est hyper intéressant ce mix de musique-là. Et d'ailleurs, au-delà de tout ça, le jazz apporte ça, parce qu'il peut être d'Éthiopie, mais moi, ce que je préfère en fait dans le jazz, c'est le jazz rock, les albums de Miles Davis avec les combos John McLaughlin, Benny Maupin, exactement, avec tout ce mélange musical. Et c'est hyper intéressant. En tout cas, le jazz le permet, le hip-hop le permet. Maintenant, le rock, je trouve qu'il a évolué aussi. Bon, des Pink Floyd à l'époque, et puis Radiohead l'a vachement fait évoluer vers tout un pan électronique. Donc,
c'est ça la fusion. Bah, on a tous des origines musicales différentes, un peu.
Ouais.
On a quand même des grosses racines communes.
Oui,
on aime tous la musique afro, on aime tous le groove, on aime tous le jazz, on aime tous. On est ouvert, quoi.
Oui.
Et puis ce qui est marrant, c'est que c'est aussi un espèce de serpent qui se mord la queue, parce que même en fait, le jazz éthiopien, au moment où où il y a eu des disques qui ont été faits, tout ça, en fait, les gars là-bas étaient aussi très influencés par la funk anglaise ou brésilienne, tout ça. Et donc, ils essayaient de sonner un peu comme ça, mais avec leur code,
avec
leur gamme,
ouais,
leur truc. Et c'est un peu comme...
Un
aller-retour, même si après on reprend aussi des morceaux qui sont plus trad, mais qui gardent toujours en fait cette patte éthiopienne.
Ouais.
C'est d'ailleurs un répertoire et un folklore qui est immense, quoi, avec les éthiopiques, les compilations éthiopiques, là, je ne sais pas si ça dit
quelque chose.
Il y a plus de 20 volumes.
Ça nous a beaucoup influencé pour écrire la musique ou pour même faire des reprises, parce qu'on a fait beaucoup de reprises avec Ethioda, mais en les passant à la moulinette de notre...
En les découpant.
Notre
culture, ouais.
Voilà, un peu, on les rockifie un peu, on les jazzifie un peu, mais sur ces compilations éthiopiques, il y a 30 volumes, je crois, sur le label Bouddha Music. Francis Falsetto, donc l'éditeur qui a fait connaître en fait la musique éthiopienne au grand public, parce qu'il y a quelques années, il y a 20 ans, elle n'était pas
connue. C'était pas connu.
C'est lui c'est un Français, hein, qui est parti là-bas récupérer des cassettes, les éditer, les faire sortir sur ce label.
Je te rejoins aussi sur le fait que c'est cool que tu vois que, par exemple, les Africains sont influencés par la musique occidentale, mais qu'au final... À quelque part, au bout d'un moment, c'est plutôt les Occidentaux qui sont inspirés par cette musique.
Ça se mélange constamment, mais depuis longtemps, ça fait des siècles, peut-être depuis au moins, je ne sais pas, je ne vais pas dire de conneries, mais
Fela, il est parti aux États-Unis, puis c'est en revenant qu'il crée l'Afrobeat. Donc,
et d'ailleurs, Mouladou,
et puis l'Afrobeat qui aspire finalement John Coltrane. Et puis, tu vois, du coup, c'est un métissage sans fin depuis tout le temps. Même. Donc, quand tu prends les musiques insulaires, tu vois, Cuba, typiquement, mélange musique occidentale, musique nigérienne.
Bach, il voyageait, et puis il rentrait, il avait toute la symphonie qu'il venait d'entendre dans l'oreille.
Et ouais, ça crée, quoi.
Oui, la musique, elle n'a jamais cessé de voyager.
De se métisser, de voyager, elle appartient.
Et je crois que ça continue, mais il me semble aussi que, je ne sais pas, après, peut-être que j'écoute trop de la même musique ou quoi que ce soit, mais tu vois que l'arrivée de la musique numérique, je trouve que ça se perd. Comme on perd, tu vois aussi un peu des instruments que tu peux recréer facilement avec des sampleurs, des boucleurs, tout ce que tu veux, des machines, différentes machines. Je trouve que il en reste, mais c'est pas la masse de la musique. Je trouve que maintenant, il y a aussi une consommation de musique qui est... On en consomme, on en produit, et du coup, peut-être que les projets sont, des fois, à mon goût, pas assez intéressants. Quoi.
On peut se noyer un peu, en même temps, nous, on peut pas trop cracher... Enfin, disons que YouTube nous a pas mal aidé aussi pour trouver des trucs éthiopiens qu'on avait dégoûté comme ça au hasard. Moi, j'ai découvert des trucs, mais complètement hallucinants grâce à Internet. Et c'est vrai qu'après, moi, ce que je retiens de Tioda, c'est que ça fait un peu réchauffer comme phrase, mais c'est que la musique n'a pas de frontières. C'est-à-dire qu'on a beau pas être éthiopien, on est tous blancs, on est natifs de la France, tous. Et pourtant, on fait de la musique qui vient d'ailleurs, quoi. Ouais. Et on se sent légitime de la faire parce qu'on s'en imprègne et on lui donne quelque chose, et elle nous en donne aussi, et on se nourrit de tout ça. Et ça fait du bien, je trouve, de voir des gens qui font de la musique qui ne vient pas de leur pays.
Enfin, oui, bien sûr.
Rien que philosophiquement parlant, ça veut dire que c'est un peu universel tout ça, en fait.
Complètement. Hein.
Donc ça, c'est chouette, je trouve, comme idée. Même s'il y a un moment où il y a des phases où moi, j'étais pas sûr d'assumer complètement le truc, tu vois, de faire de la musique éthiopienne. Mais vous n'êtes pas éthiopien. Comment on fait alors?
C'est grave, mais c'est des bêtes d'influence aussi.
C'est ça qui est intéressant.
C'est grave. Et en même temps, comme on parlait tout à l'heure d'Afrobeat, il y a aussi un groupe américain avec un chanteur nigérien qui s'appelle Antibalas Orchestra.
Ah bah bien sûr. Ouais.
Et pour moi, franchement, il y a fait là, j'ai vu Son Kuti, j'ai vu Femi Kuti en concert. Son Kuti se rapproche de son père, mais en termes de bande comme ça, je crois que c'est la plus grosse claque que j'ai prise. Je crois qu'ils sont 12 ou 13 sur scène, ils ont une putain d'énergie, et comme tu le dis, pourtant c'est des Blancs, d'ailleurs des Mexicains, je crois que c'est vraiment un groupe qui est mixé. Et c'est trop bien, effectivement, comme tu dis, de s'approprier une musique, de la rejouer, et puis ça peut marcher aussi. Quoi.
Et ça fait plaisir aux Éthiopiens, on a pas mal d'Éthiopiens qui nous ont suivis, à Montpellier notamment, il y avait une bonne communauté qui était ravie de venir au concert et de découvrir un peu comment on remixait un peu la musique.
Ouais, et puis peut-être que ça leur mettait aussi une fenêtre sur une musique qu'ils connaissaient bien, que c'était une fenêtre sur leur musique à eux, leur culture. Ouais. Et vous avez des bons retours, il y a du monde d'ailleurs, comment on vous trouve? Est-ce que vous avez un Bandcamp? Est-ce qu'on vous trouve essentiellement sur YouTube?
On a un Bandcamp, après il y a aussi les réseaux sociaux, mais il y a les plateformes, Spotify et tout ça. Et le meilleur moyen, c'est quand même pour trouver notre musique, c'est Bandcamp. C'est la plus directe avec le groupe.
Et puis c'est la plus solidaire, on va dire.
Voilà, la plus solidaire, et puis on peut vendre des vinyles en direct.
Exactement.
Et les CD, voilà.
D'ailleurs, vous pressez, vous, en vinyle?
On a des vinyles.
Vous avez des vinyles.
Mais de l'album précédent, donc où Max Singe est invité sur un titre.
Ouais.
TZ3Z, c'est le disque précédent.
Ok. Ouais.
Voilà, on en a là ce soir.
Ouais, trop bien. Là, je vais faire une annonce, mais il n'y en aura pas bientôt. Moi, je pense que je vais en choper un quand même, parce que ça m'intéresse et j'adore ce support d'ailleurs, qui est pour moi un des meilleurs supports. Bon, je ne vais pas cracher ça. On ne va pas toujours dire que c'était mieux avant. Le support MP3, c'est bien quand il n'est pas trop compressé. Mais moi, je n'arrive pas à me défaire du vinyle, tu vois. Mon écoute, je trouve que les basses sont profondes, que les aigus, qu'il y ait des bons aigus, et puis tout est... C'est un choix pour vous de presser quand même en vinyle, ou parce que vous auriez pu faire comme tout le monde et se dire, allez hop, on nous retrouve, on n'a que du numérique, on presse quelques CD, ou...
C'était une envie, ouais, clairement. Pour les raisons que tu évoques, quoi.
Ouais.
Pour le son du truc, pour le fétichisme du truc, moi je
trouve que
j'écoute presque plus que des vinyles en fait chez moi.
Ouais, pareil, enfin, hein, tu vois.
Voilà, c'est le petit truc, je trouve que le format est bien, tout ça. Après, c'est aussi, le dernier, on l'a pas sorti en vinyle pour une question de budget aussi.
Bah ouais.
Parce que ça veut dire engager quand même des frais assez conséquents, parce que ça coûte assez cher, d'ailleurs de plus en plus cher.
Et d'ailleurs, il y a des délais.
En vinyle.
Il y a des délais de fou, quoi.
Ouais, il y a des délais de fou, et puis.
Exactement. Ouais.
Puis vendre un objet à plus de 20 balles, parce qu'aujourd'hui un vinyle ça coûte très cher,
c'est sûr, ouais.
Ça fait un peu chier.
Bah ouais, grave.
C'est-à-dire que pour la personne qui veut repartir avec ta musique, lui proposer quelque chose aussi cher, c'est un peu délicat quand même.
Bah ouais.
Mais c'est pas impossible qu'un jour on presse Team 4 en vinyle, mais je crois que c'est pas trop à l'ordre du jour.
Parce que moi je sais pas pour vous comment, bon si je vois un peu dans le jazz comment ça fonctionne, mais je sais que dans le hip-hop, il y a en ce moment, en tout cas pour les pressages de vinyle ou pour des sorties de projets, il y a pas mal de campagnes solidaires de type, je sais pas moi, Ulule, ou je sais pas comment s'appelle ces plateformes là. Et moi finalement j'aime aussi bien cette façon d'aborder la musique, parce que moi si je vous, du moins si j'aime votre musique, si je vous suis, c'est aussi un, en tout cas c'est plus, je trouve que c'est plus comment je vais dire ça, plus solidaire
et engageant aussi
que d'aller acheter ton Scud à la Fnac, tu vois, là c'est toi, c'est moi, je,
oui.
J'investis dans ton projet et puis...
De toute façon, on vend plus de disques au concert qu'à la FNAC, ça c'est clair et net. Hein. Et c'est là où on en vend le plus en fait, c'est à la fin des concerts.
Bah ouais.
Parce que les gens voient la musique, on se rencontre,
bah oui.
C'est plus sympa quoi. Mais...
Et puis il y a aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une telle consommation de la musique que je te dis, hein, on peut vite se perdre, les gens ne savent pas, ils ne savent pas où aller choper. Bon,
c'est plus
c'est...
la même conso quoi.
Non,
attends, la plupart des gens n'écoutent plus un album.
Ben ouais.
On écoute un titre ou deux de l'album, la consommation de la musique a changé quoi. Donc, il faut faire avec. Mais c'est vrai que ouais, moi je suis un peu comme Romain et toi, j'ai pas une grosse collection de vinyles, mais j'aime bien les albums quoi. Je vais chercher l'album, je l'écoute en entier avec toutes ses imperfections et tout ça. Et aujourd'hui c'est. Même je dirais, est-ce que c'est vraiment productif finalement pour un groupe de sortir un album aujourd'hui? Pas sûr, tu vois.
Bah non,
peut-être
c'est...
les clips ont plus d'impact.
Ouais,
tu vois, il faut de la vidéo, les temps changent. Quoi.
Et puis après, c'est aussi nous, comment on s'est construit. Moi, j'ai l'impression qu'on a presque le même âge. Je sais pas, moi, j'ai un peu plus de 40 ans. Et moi, ma construction dans la musique et dans les albums, dans ma découverte, elle n'a jamais été aussi facile que maintenant. C'est-à-dire que je me rappelle avoir été fan de groupe et d'attendre, tu vois, d'avoir ce truc de te dire, ah bah tu sais, t'as lu dans un magazine dans les années 90, c'était, tu lisais dans un magazine que l'album allait sortir, t'avais une fois un son, si t'avais MTV ou un truc comme ça, il y avait un clip, et après t'attendais 6 mois jusqu'à la sortie, aller chercher le truc, et du coup je pense qu'on a, voilà, on a une...
Ça réexiste avec, mais c'est une culture un peu bobo, enfin c'est une culture où il faut avoir déjà la maille quoi, mais ça réexiste un peu avec le pressage vinyle.
Ah oui, bien
parce
sûr.
Parce que, enfin là je sais pas, par exemple, ça a rien à voir, mais le dernier album de Daniel Rawson, qui est un guitariste de Grizzly Bear, là, et ben il y a un shop à Montpellier où il en a eu 3.
Ouais, bah oui.
Et alors tous les potes ils sont allés, moi aussi,
ils
étaient déjà partis.
Bah, bien
sûr. Mais donc, pour les personnes qui sont attachées à ce genre de format, ben ça garde un peu ce côté-là. C'est-à-dire, ouais, quand est-ce qu'il arrive et est-ce qu'il y a un shop qui va l'avoir, tu vois?
Bien sûr.
Mais c'est peut-être ce qu'on aime bien aussi, en fait, là-dedans, c'est
ouais,
le côté, bah, ouais, je le veux et j'y vais, mais... Enfin, bon, c'est quand même un délire un peu...
Quand à l'heure des plateformes où tu payes 10 balles, t'as accès à des milliers d'albums, payer un vinyle 25 balles, tu vois, pour
je me mets à la place de l'acheteur, moi, quand j'achète un disque à un groupe, c'est presque aussi pour dire au groupe, moi, je vous soutiens,
bah, bien
parce
sûr.
Que aussi, je me mets à leur place, et je suis content... limite j'ai une dédicace ou j'en sais rien, mais je suis content d'acheter un disque à quelqu'un qui m'a fait plaisir, et c'est un objet de souvenir aussi. C'est plus un truc de se faire plaisir à avoir un objet, plus que ouais, même en tant que musicien, de créer un album, c'est on couche quelque chose sur un disque,
bien sûr,
et on a un bel objet et on est fier de ça aussi, tu vois,
parce
que maintenant si tu fais un disque pour te faire de la thune,
ouais,
en tant
pas,
que musicien, bah, faut que tu changes de métier, quoi, t'as rien compris. À moins d'avoir vraiment un groupe qui cartonne, tu vois.
Ouais.
Mais encore et encore. Ouais. C'est pas avec les disques qu'ils vont gagner des sous.
Non.
C'est
les
royalties à la limite sur,
ou les
sur la diffusion.
Ou des choses comme ça.
Mais donc c'est vraiment un plaisir personnel et un accomplissement de tout un collectif. Parce qu'il y a aussi l'ingénieur du son,
bah oui.
Et aussi le mec qui va masteriser, le mec qui va faire l'infographie, l'attaché de presse, etc. S'il y en a, bon. La production, parce qu'on a eu aussi une asso qui nous a beaucoup aidé pour Team 4, Gaïa Musique, qui est en stand-by en ce moment, mais voilà, on a eu plein de financements, plein d'aides de subventions grâce à cette asso.
Trop bien.
Et, Et on est vraiment allé au bout de cette démarche de allez, on produit quelque chose, on essaie de trouver des partenaires et on y va, quoi.
Bah, trop bien. Et en plus, et voilà. Ces partenaires-là, je pense qu'ils existent aussi, parce que on va pas se leurrer, on est du moins. Je pense qu'il y a beaucoup de fans de musique comme vous, je pense, comme moi, comme tant de personnes qui m'entourent et qui sont prêts, comme vous dites, à investir, à aller jusqu'au bout du projet. Et comme tu le disais, en fait, quand tu sors un album, c'est aussi une partie de toi. Hein. C'est pas que des images, ça fait un peu beau de dire ça, mais quand tu as travaillé longtemps sur ce projet, quand tu vas en répète, quand tu le couches, quand tu vas en studio, quand tu parles avec lui, qui te dit que ça prend un temps, et puis voilà, quoi, de le poser, c'est. Moi, j'imagine que si j'étais musicien, ça serait. Je serais refait de ça,
quoi. C'est toujours des phases qui sont extrêmement enrichissantes. C'est des moments où le groupe il se,
ouais, bah grave,
se lie à fond. Enfin, tous les albums qu'on a fait. Enfin, le premier album, on l'a enregistré quand même en un jour.
Ouais, et Romain est arrivé en retard en plus. Voilà. C'est vrai.
Déjà, pas levé. Tu t'en rappelais plus. Hein.
Et on a fait en une après-midi, on a fait 7 titres.
Un champ, mais
en une après-midi. Ouais. Ouais.
On en a filmé un. Ouais. On a fait un shooting photo. Enfin bon. Mais c'était un moment intense, mais après on a fait d'autres albums qui ont pris plus de temps, où il y a vraiment des grosses phases en studio. Et c'est des beaux moments en fait dans la vie d'un groupe, quoi. Bah, c'est des moments où tout se resserre un peu. On voit le répertoire est frais, tu vois, en studio, le répertoire est encore frais. C'est marrant parce que du coup les morceaux ils changent un petit peu de gueule après, ou alors tu restes vraiment sur ce que tu as fixé à ce moment-là, mais c'était un moment qui était unique en fait, parce que. On va rarement au studio en ayant joué les morceaux mille fois en concert.
Bien sûr.
C'est quand même un peu l'inédit. Quoi. Là, par exemple, pour Team 4, je pense qu'on a
très peu joué.
Très peu joué.
Vous avez sorti combien d'albums ensemble?
Un EP et trois albums.
Ouais. Un EP et trois albums.
Et est-ce que vous êtes toujours là dans la même énergie? Vous vous dites là, du coup, vous allez en sortir un? Vous avez des projets?
C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a eu le Covid entre-temps.
Ouais, bah ouais.
Mais on a bossé quand même.
Ce qui a été compliqué, si tu veux, c'est que l'album Team 4, il est sorti très peu de temps avant le Covid.
Bah ouais.
Donc il a un peu pas eu vraiment le temps d'exister. Voilà quoi.
Ouais, les
gars, voilà.
On l'a un peu tourné dans quelques lieux, sympa d'ailleurs.
Mais pas assez.
Assez tourné, ouais. Il faudrait qu'on continue un peu à le présenter. Parce que c'est comme un spectacle, quoi.
Ouais.
Max Singe, quand il est là, on a vraiment toute une.
Presque pas une mise en scène, mais
il y a un récit.
Il y a un récit qui est là. Ouais. Une histoire qu'on raconte qui n'est pas du tout la même, finalement. Là, c'est complètement autre chose. Ce soir, en instrumental, il y a un côté libre. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors qu'avec Max, c'est vraiment le format chanson.
Et est-ce que c'est pas le fait que justement ça soit un chanteur et que du coup ils prennent aussi, pour vous qui jouez essentiellement de l'instrumental, qu'ils prennent aussi cette scène, cet espace, qu'ils l'habitent?
Forcément, ça a contraint la composition. Parce que la musique éthiopienne, c'est quand même souvent une musique de trance, donc avec des morceaux qui vont durer longtemps, tout ça, qui vont s'étirer avec des solos, et c'est comme ça que c'est bien en fait. Faut que ça rentre dans le corps, que tout ça. Et en fait, le fait de mettre des mots là-dessus, avec le fait qu'il faut qu'il y ait de la rime ou du rythme en tout cas, ça fait qu'on a fait des morceaux quand même en général plus courts, même s'il y a des morceaux qui sont un peu longs avec Massage, mais en général plus courts. Effectivement, ça nous a donné à nous aussi une contrainte en fait de faire sonner ça ensemble avec lui. Et le partage par rapport à ça a été génial. Parce que je me rappelle, on a fait cette résidence au Jam où on était vraiment sur la création, je sais plus combien de jours, 3-4 jours. Et en fait, Max Singe, c'est quand même quelqu'un qui est très très brillant. Enfin, moi, il m'a fait halluciner comment il allait. Il écrivait les paroles, à un moment, il partait, allait se mettre dans la cuisine du Jam pour écrire les trucs, il revenait une demi-heure après. Ok, les gars, c'est bon, je l'ai, on reprend ça, machin. C'était dingue, quoi. Parce qu'en plus, Daniel, lui, il amenait un côté de la musique qui est un peu compliqué, qu'on appelle les Thalea Colors. C'est un truc qu'il a travaillé avec avec Magic Malik, en fait, comment il s'appelle, La Fanfare. La Fanfare XP. Donc, c'est un matériau musical qui est un petit peu dur à comprendre. Ouais. Je vais pas essayer de l'expliquer là, c'est vrai. Ouais. Mais en fait, Max Singe, il l'a vraiment directement digéré.
Ouais.
Et ça l'a inspiré pour rythmer son chant. Dans des formes qui sont pas aussi simples que les 12, enfin les 4 mesures, les 8 mesures, ou des trucs comme ça. Et ça a été c'est vrai que cette résidence, ça a été un bon moment de partage et de rebond. Tout le monde n'a pas arrêté de rebondir là-dessus.
Mais ça n'a pas été simple pour autant pour Max.
Moi, j'ai passé du temps avec lui et moi, je rejoins Romain. C'était impressionnant, ses capacités d'adaptation sur la musique, de compréhension.
mais lui, pendant toute une période, pendant la période de création, il se posait un milliard de questions. Est-ce qu'il va y arriver? Comment ça marche? Comprendre les systèmes? Ça fout. Et là, il a fait vraiment un taf de fou. Ouais. À ce niveau-là, c'était vraiment... Parce que finalement, il est beaucoup plus venu sur notre musique que nous, on a été vers ses textes. Il a écrit les textes. La musique était en train de se faire, tout s'est fait un peu en même temps, quoi, finalement. Daniel a amené les morceaux, ils étaient encore très frais, ils n'avaient pas les formes définitives. Et Maxin, finalement, on a construit les morceaux autour de Maxin, mais c'est beaucoup lui qui est venu vers son passé.
Bah ouais, c'était ça ma question, c'était est-ce que lui vous a écouté, vous lui avez proposé des morceaux et il a écrit dessus, ou il y a vraiment une émulsion qui a fait qu'il vous a écouté, vous a vu et hop. Il y a eu des brides.
Un échange, en fait. Des allers-retours.
Ouais. Ouais.
Avec des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché, qui ont terminé à la poubelle.
Et c'est cette façon-là de travailler, vous, ça vous a plu cette,
C'était super enrichissant.
On a eu trois résidences. Je crois. Il y en avait une au Café Plume. Première, ça, c'est dans le Tarn, le Café Plume. Il y en a une au Jam, super lieu. Le Jam à Montpellier. Et il y a eu. Il y en a eu quatre en fait. Il y a eu le Victoire 2 à Montpellier.
C'est plutôt à la fin.
Victoire 2, c'était la dernière où on a fait un spectacle à la fin, un concert de fin de résidence. Et il y a eu aussi le club à Rodez, qui est une salle aussi de musique actuelle. Et en fait, tous ces lieux-là, c'était génial de pouvoir travailler dans des conditions sur scène avec tout le son, l'éclairage qu'il fallait.
Et est-ce que le fait d'avoir travaillé avec Maxin, ça vous a... Est-ce que vous êtes sensible par exemple au hip-hop? Est-ce que vous, c'est une musique qui vous plaît? Du moins, est-ce que c'est un courant musical qui vous attire? Et est-ce que le fait d'avoir bossé avec lui, ça vous a intéressé d'aller découvrir d'autres MC, des coups
Non, on n'écoute que du jazz.
En tout cas, j'ai écouté leur album de Bois Vert.
Ouais.
Et je kiffe aller les voir en concert, c'est un super groupe. Après, moi de base, je suis pas vraiment attiré par la culture hip-hop et tout ça.
Ouais.
Même s'il y a des trucs qui me trouvent cul et que je kifferai toujours.
Ça sera retiré de l'interview.
Mais bon, je suis un peu un vieux de la vieille, c'est-à-dire que si je m'écoute l'école du micro d'argent une ou deux fois par an, je kiffe grave. Mais après, j'ai pas. Enfin, il y a tellement de musique que j'aime que je vais pas naturellement aller vers des musiques comme ça. Par contre, des fois, on peut me faire écouter des trucs et je dis putain, c'est vrai que c'est super bien.
Ouais. Parce qu'il y a aussi des choix de combos. Hein. Moi, je pense à un combo, je sais pas si vous connaissez ce groupe de jazz américain qui s'appelle Bad Bad Not Good. C'est des jeunes, hein, je pense qu'ils doivent avoir 30 ans et ils font un jazz assez posé, assez posé, assez groovy, assez lourd. Et eux, ils ont fait des bêtes d'albums avec des gros MC, par exemple du Wu-Tang avec Ghost Pasquilla. Et c'est des albums avec justement toute cette énergie un peu jazz et toute cette force hip-hop. Et ça marche. Mais après l'interview, je vous laisserai quelques noms d'albums et d'artistes que vous pourrez aller découvrir. Je ne connaissais pas MF Doom non plus.
Madlib, MF Doom. J'écoute un peu de hip-hop, mais je suis comme Romain, j'écoute tellement de choses. Mais régulièrement, je suis grand fan des Roots, de Tribe Called Quest et tous ces trucs-là. Tu vois, vraiment, ce son-là que j'aime du coup. Tu parlais du jazz dans les hip-hop. Et après Armel, c'est Armel qui m'a fait découvrir Madlib, MF Doom, tous ces trucs-là. Et même aujourd'hui, les Kendrick Lamar, tout ça, j'adore, j'écoute régulièrement.
Mais parce que je pense que aussi, moi je vous parle un peu de la culture qui me touche le plus, mais le hip-hop justement, tu vois, il y a eu toute cette période, on va dire début des années 90 jusqu'à 2000, où c'était plutôt un rap boom-bap avec des samples et des rythmiques assez simples, une snare, une caisse claire... Et une basse, et du coup ça s'est effacé dans les années 2000, on est rentré dans le numérique, et on a commencé à écouter de la trap, des artistes, du moins avec des flows beaucoup plus rapides, des rythmiques beaucoup plus rapides qui moi me touchent moins, et hop, maintenant on reglisse dans un mouvement où les gens reviennent en arrière, comme Kendrick Lamar, hein. Moi j'aime pas tout, tu vois, c'est aussi un artiste mainstream, mais par contre il a des prods et des morceaux qui sont juste énormes, bien sûr.
Après, oui, c'est sûr. C'est...
Oui.
À boire et à manger. Quand...
Ouais, le dernier truc qui m'avait vraiment troué le cul dans ce genre de zik, mais qui venait aussi un peu du rock and day, c'était King Cruel.
Ah, bah ouais, ça c'est mortel. Enfin, hein.
ça, j'avais vraiment kiffé.
Moi, j'aimais bien ma chanson préférée de ce mec, c'est Easy. Tu vois, je crois que c'est une rythmique de guitare ou une mélodie de guitare où lui chante avec cette voix assez rocailleuse.
On va devoir aller se préparer.
Yes. Eh ben, je vais. Ben, tu vois, on voulait faire 10 minutes, ça a duré 30 minutes. C'était.
Plaisir.
Je suis hyper content de vous avoir rencontré vraiment parce que, comme je vous dis, nous on vous a découvert il y a peu et on a kiffé votre musique. Et puis c'est trop cool de pouvoir faire des interviews comme ça, assez facile, même si vous n'étiez pas forcément à l'aise. Moi, je ne l'étais pas non plus. Et au final, on se fait une belle interview et voilà, je vous ferai tourner
avec grand plaisir, en tout cas, plaisir de rester en lien et pourquoi pas de revenir bientôt ici.
Mais grave. Ben, merci beaucoup à vous. Hein. Vous n'étiez pas tous là, mais un grand merci.
Le nom de la radio ?
Radio Diwa.
Radio Diwa.
Exactement, c'est une radio associative, je le rajoute, indépendante, pas de pub, on fonctionne comme ça. Et c'est aussi, en fait, grâce à des artistes comme vous, qu'on arrive à donner du contenu. Donc un grand merci à vous.
C'est nous.
Se baigne et appelle Libellule et la terre est charmée par la scène pendant qu'il observe. Qui éteint le feu quand tout s'enflamme éperdument? On le sait un peu, c'est pas le moment. Nos deux amants sont le singe et la hyène, une peur mutuelle. Il ricoche et s'effraie sans se voir dans le noir, s'embrasent les lanternes. Elle le voit et lui le sait, et pris de quoi qu'elle vit de peine. Belle le soir et lui masquer cette légende n'a rien d'urbaine. Douloureux quand on se soigne avec le temps. Ils en ont si peu qu'ils le brûlent aux yeux des nonchalants. On rapporte la nouvelle au roi et à la reine, car ici comme ailleurs on n'entend que les choix de ceux qui ont du poids. Qui veut des adieux, c'est à deux qu'ils fendent le vent, qu'ils vendent le peu, mais il ne vaut plus rien à présent. Seul compte les étincelles qu'ils voient dans leur sommeil, et du feu la tempête et du ciel la comète quand il se réveille. Elle le voit et lui le sait, et pris de quoi qu'elle vit de peine. Belle le soir et lui masquer cette légende n'a rien d'urbaine. Aux légendes, les deux amoureux passent pour une folie aux yeux des gens. La poussière est une aide, elle peut cacher les ailes, mais la pluie est de celle qui révèle les peines quand elle en sort ciel.